France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. Alors
les légumes secs ou légumineuses sont les lentilles, les fèves, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, pois cassés.
C'est surtout nourrissant, c'est bon et financièrement ça revient pas cher.
Les légumineuses ont pourtant longtemps souffert d'une mauvaise réputation, jugées longues et difficiles à cuisiner.
On peut les trouver en conserve, même déjà cuisinées, mais aussi sous forme sèche, aussi sous forme de farine ou même déjà sous forme de pâte.
Un Français mange en moyenne 2 kilos de légumineuses tous les ans, moins que nos voisins européens.
Et voilà mon gars, t'es calé pour la route. Allez!
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les légumes secs? Ils sont ennuyeux, ils nous transforment en usine à gaz. C'est un truc de pauvre pour remplacer la viande. Aujourd'hui, il semblerait que le pois chiche, les haricots secs et autres lentilles opèrent enfin un retour en grâce. On salue leur bon profil écologique, leurs bienfaits nutritionnels, leur super pouvoir en cuisine. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Zora Levaché, bonjour.
Bonjour à tous.
Cuisinière, restauratrice et autrice, vous avez fondé Sonat, une cantine végétale qu'on apprécie particulièrement dans la bande. C'est un secret pour personne, on l'a dit à plusieurs reprises. Vous nous en rappelez l'adresse à Paris ?
5 rue Bourdalou, dans le 9e arrondissement.
Absolument, et vous signez Chiche ! Osez les légumineuses aux éditions Ulmer avec les photographies signées
Franck Juéry.
Franck Juéry, elles sont très belles avec cette belle lumière du jour qui rend justice justement aux lentilles, pois chiches et autres haricots secs. C'est d'aux éditions Ulmer, je le disais. Vous allez nous montrer tout le talent des légumes secs avec des recettes ultra gourmandes, un petit avant-goût.
Des beignets, des tempuras, des écrasés, des boissons, des desserts.
On peut tout faire avec les légumes secs, c'est absolument formidable. Anthony Berthoud, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le nutritionniste de la bande et on est ravis que vous nous rejoigniez dans cette belle bande. Vous défendez une approche intégrative, préventive, holistique de la nutrition, ça vous va ?
Parfait.
Et votre dernier ouvrage, remettez du bon sens dans votre assiette et dans votre mode de vie. 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste chez Actes Sud. Où il est d'ailleurs question de légumineuses, évidemment, cher Anthony.
Et oui, c'est vraiment un aliment, on va le voir, qui présente beaucoup d'intérêt au niveau nutritionnel, des petits inconvénients aussi, mais on va voir ça.
Des petits inconvénients, on va essayer de voir ça ensemble sereinement. Avec nous également tout au long de cette émission, Elvira Masson et Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à toutes
Bonjour.
Et tous.
Elvira.
Un livre choc.
Ouais, on peut le dire.
Que ça à dire.
Un livre choc.
Dont je vous parle.
Bah, dès le début de cette émission, absolument, un livre choc. Justine.
Des vins qui, comme les légumineuses, ont des atouts agronomiques, économiques et se traînent une réputation douteuse.
Une sale réputation, on va voir ça avec vous, chère Justine. Et puis c'est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons celui qui vient désormais à notre micro poser son regard tendrement féroce sur nos assiettes. François Simon, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait ding aujourd'hui ?
Aujourd'hui, vous allez moins rigoler, tout à l'heure on va parler d'amertume.
Eh oui, l'amertume, il est d'humeur amère, notre ami François. La cuisine des légumineuses, comment ça se passe à la maison ? Réagissez sur franceinter.fr ou sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com. Et puis abonnez-vous en cette rentrée au podcast dont on va déguster et au podcast de toutes nos chroniques sur l'appli de Radio France. Et retrouvez tous nos contenus, recettes, adresses, infos pratiques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant notre leçon de cuisine et de nutrition autour des légumes secs, une actualité littéraire. Je vous l'annonçais la semaine dernière, je suis resté à Lille après notre émission en public depuis la grande braderie à marquer d'une croix blanche dans nos
on
carrières.
On s'est bien amusé.
Ah bah oui, c'était incroyable. On a même mangé des moules frites.
On a mangé beaucoup de moules et beaucoup de frites.
Ouais. En excès, on a bu un peu de bière, mais raisonnablement. Et puis moi, je suis resté effectivement participer aux délibérations tant attendues du prix Mange-Livre. Mange-Livre, c'est un prix fondé en 2017 par notre consoeur Marie-Laure Fréchet, journaliste gastronomique basée à Arras, dans le Pas-de-Calais. Et ce prix récompense chaque année, depuis 9 ans, une œuvre abordant l'alimentation ou la gastronomie sous un angle durable, sous l'angle de l'écologie. Le jury 2025 était composé du chef David Toutain, de la chef cocktail Margot Le Carpentier, de la restauratrice et autrice Fleur Godard, du chef et restaurateur Mehdi Favry et du couple Ninta. et Félix Robert qui nous accueillaient à la table de leur restaurant Arborescence à Croix. Expérience superbe d'ailleurs dans ce restaurant Arborescence à Croix. Nous sommes dans l'agglomération lilloise. Après quelques heures de dégustation, mais surtout...
Dites la vérité.
De discussion, quand même. On a aussi discuté autour des 10 ouvrages en lice pour ce prix. Un livre a été choisi pour la première fois dans l'histoire de ce prix à l'unanimité. Ça s'est jamais vu. Nous avons tous été saisis par sa lecture. Je laisse le soin à Elvira d'annoncer ce prix Mange-Livre, car Elvira, vous m'aviez justement, vous m'aviez alerté sur la force de ce livre quand vous l'aviez découvert cet été pendant vos vacances.
C'est vrai. Le prix Mange-Livre 2025 a été décerné à Ulysse Thévenon pour Le sens du bétail, sous-titré « Vous ne mangerez plus jamais de la même façon » aux éditions Flammarion. Alors, vous mentionniez l'unanimité du jury. Elle en dit effectivement très long sur la force et je dirais presque l'implacabilité de ce qui est le fruit d'une enquête de 2 ans au cours de laquelle Ulysse Thévenon, journaliste indépendant, a recueilli près de 250 témoignages, dont une centaine d'éleveurs. Alors nous ici, quand on parle d'élevage, quand on fait un reportage, on parle de celles et ceux qui nous nourrissent bien, qui nourrissent bien leurs bêtes, qui savent exactement ce qu'ils leur donnent à manger, qui sont engagés dans une démarche agroécologique, qui pratiquent l'agroforesterie, qui en vivent dignement, souvent, qui fournissent une clientèle, bouchers, restaurateurs, prêts à payer un prix juste pour des clients qui, à leur tour, veulent bien payer un prix juste. Mais le gros de l'élevage, c'est pas vraiment ça. Et elle est bien triste, l'histoire de l'élevage industriel que nous raconte Ulysse Thévenon. Attention, il ne s'agit pas d'agribashing, ce n'est pas un énième plaidoyer pour un monde sans élevage. C'est un livre au plus proche des éleveurs qui raconte eux-mêmes les dérives du système qui est supposé les faire vivre, mais qui les exploite, les appauvrit, les tue. Un suicide par jour dans le monde agricole, et dont notre santé à nous est la victime. Un monde de lobby, un monde composé de 400 000 agriculteurs et moins de 10 distributeurs qui négocient l'intégralité des prix des produits français. Un monde où les hypermarchés exercent une pression délirante, où les banques envoient les paysans dans le mur. Et puis moi, j'avoue, un peu bêtement, un peu naïvement, je découvre aussi un monde que je connais mal, qui est la face sinistre d'un maillon de la chaîne qui devrait œuvrer main dans la main avec les fermes et qui les étrangle, celui des coopératives agricoles. On parle des grosses coopératives qui seraient, je cite Ulysse Thévenon, membres du CAC 40, tellement elles sont enrichies, si elles n'avaient pas le statut de coopérative. Alors même que beaucoup d'éleveurs ne se versent pas de salaire. Un système dont l'agriculteur est partie prenante, puisqu'il a des parts dans la coopérative, qui en retour lui achète ses bêtes et lui propose des services. Sauf qu'elle fait plus que proposer. Elle impose un système. Les gains des agriculteurs doivent servir à acheter des antibiotiques obligatoires, financer des travaux toujours plus copieux, de la nourriture. Un système fou où certains soupçonnent même des mauvaises livraisons d'animaux ou de nourriture pour faire rater aux agriculteurs les primes qu'ils pourraient recevoir s'ils étaient productifs. Il est douloureux et passionnant, ce livre. Passionnant, j'emploie ce mot à défaut d'un autre, c'est un peu maladroit, parce qu'Ulysse Thévenon est un super journaliste et qu'il a fait un travail respectueux aussi de ces hommes et de ces femmes. On se demande d'ailleurs comment c'est possible de traiter si mal ces hommes et ces femmes qui sont si essentiels et qui ne sont pas mis à terre par les écolos et les véganes, comme on aimerait bien nous le faire croire. Ils sont mis à terre par la course au profit d'une industrie violente et toujours plus vorace. Bah, bravo à Ulysse Thévenon pour ce prix Mange-Livre. Je cite sa réaction pour finir. « Je suis extrêmement touchée et émue. Je ne pensais jamais écrire un livre de ma vie, mais j'ai fait ce livre car c'était important pour moi d'écrire sur les grandes questions qui soulèvent l'élevage en France. »
Le sens du bétail, vous ne mangerez plus jamais de la même façon, de Ulysse Thévenon aux éditions Flammarion. Un livre nécessaire, en effet, une enquête honnête et équilibrée.
Et implacable.
À mettre entre toutes les mains, oui. À commencer par celle des politiques et des acteurs de l'alimentation. On vous en recommande très chaleureusement la lecture. Derrière la console pour mitonner cette émission en direct, Laurent Thomas, Guillaume Rousse et Fabrice Ribaud, qui préparent l'émission. Joyeux anniversaire, Fabrice.
Oh, bon anniversaire.
Je suis toujours aussi content de travailler avec toi. Dans un instant, notre leçon de cuisine et de nutrition autour des légumineux, juste après Mathieu Bogart. Tiens, un titre qui va certainement... Faire réagir notre ami Anthony Berthoud, il faut toujours écouter son corps.
Ah, effectivement, toujours, en tout cas en partie.
Sur France Inter.
Il faut toujours écouter son corps. Il faut toujours l'écouter, c'est meilleur. Meilleur pour la santé, d'accord. Pour mieux aller, rester fort. Il faut toujours écouter son corps. Non, ne surtout jamais faire cette erreur. Laissez parler sans effort.
être sourd, pas que tu ignores. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, ou courir ou dormir, tout ce qu'il a à te dire. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit somnale. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Il le faut, c'est un conseil pour vous. Être sûr à tous les coups,
il faut toujours écouter son pouls.
C'est la nature, voilà tout. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir. Quand il dit il faut dormir,
ou courir ou dormir, tout ce qu'il a à te dire.
Pois chiches, lentilles, haricots secs, on vous dévoile les super pouvoirs des légumineuses en cuisine et sur le plan de la nutrition. Est-ce que vous voulez, chers auditeurs et chères auditrices, entendre le cri du pois chiche à l'apéro? Waouh,
pas mal. Mmh.
C'est gourmand, François Simon. Mmh.
Ça reste, ça perdure. Ouais. On est prêt.
On est prêt. Légumes secs pour l'apéro. Mais alors, légumes secs et croustillants, par quelle opération vous avez réussi à les rendre croustillants, Zora Levaché?
Alors, on peut très bien les préparer à partir de pois chiches en conserve.
Oui.
Il suffit de les laisser au four pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire un peu plus, ça dépend de la taille des pois chiches, à 100 degrés. Mais j'ai également essayé une technique ce matin, je les ai mis à 200 degrés, 25 minutes, 30 minutes, et ça donne ce résultat.
Il faut les avoir bien bien égouttés, voire un peu séchés avant?
Non, même pas. En revanche, j'ai rajouté de l'huile d'olive, des herbes du balcon, il y a de la sauge, un petit peu de thym, du romarin, et sel et poivre. Après, vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, rajouter des épices, du poivre, du piment, enfin, tout est permis.
Et alors, ça se grignote sans fin.
Se grignote sans fin, et j'imagine qu'il n'y a pas que les pois chiches qui peuvent subir ce traitement croustillant.
Exactement, ça fonctionne aussi sur les haricots, sur les graines de lupin, un peu moins, mais haricots, fèves, faut se faire plaisir.
Avec un peu d'épices.
Oui,
des
herbes aromatiques.
Ça les rend aériens, je trouve.
Du poivre, je trouve que ça fonctionne très bien avec le poivre du moulin sur les pois chiches.
Attention, on n'a pas affaire à des légumes secs, crus, secs, au sens où ils n'ont pas
subi
de cuisson.
Non, pas du tout, faut que ça soit cuit en avant. Ouais, exactement. Alors celle-là, cette version, donc ça, c'est, je les ai fait cuire, tremper la veille et cuire le lendemain, puis je les ai passés au four. Ça fonctionne aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur les légumes en conserve, en boîte.
Légumes secs croustillants pour l'apéro, et c'est bien meilleur que toutes ces cochonneries qu'on achète en général pour l'apéritif qui se retrouve à la page 90 de votre livre Chiche, Osez les légumineuses aux éditions Ulmer, un livre sur les légumineuses après avoir consacré un premier ouvrage aux légumes, hein, Zora Levaché.
C'est ça, Sonate et légumes, et du coup.
Vous poursuivez votre aventure végétale.
Oui, tout à fait. Donc ça reste un livre sur les végétaliens, sans le côté militant.
Sans le côté punitif, peut le dire, parce qu'on est vraiment dans une forme de jouissance alimentaire avec vos recettes.
Il y a beaucoup de gourmandises, et l'idée m'est venue en discutant avec des clients qui ne savaient pas comment les cuisiner ou comment les intégrer dans leur repas. Donc là, l'idée, c'est de proposer des recettes variées avec des légumineuses sous différentes formes. Beignets, tempura, galettes, crêpes, salades, ragoûts, et même dans des sauces, desserts et boissons à partir de légumes, de graines sèches. fraîches, congelées ou en conserve.
Absolument. Alors pourquoi, Zora Levacher, les légumineuses ont tout bon ? Alors elles sont bonnes pour la santé, ça on va le voir avec votre voisin Anthony Bertou. Bonnes pour l'environnement aussi, hein ?
Alors les légumineuses, elles ont tout bon. C'est premièrement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont écologiques. Mm-hmm. Elles contribuent à la fertilité des sols grâce à leur capacité à y fixer l'azote naturellement.
Et oui.
On peut dire qu'elles sont de véritables engrais verts.
C'est ça.
En plus, elles nécessitent peu d'eau pour pousser, de quoi motiver les agriculteurs qui peuvent espérer de bons rendements, même sur des terres relativement pauvres.
Elles sont très sobres en irrigation et ça, c'est tout à fait intéressant.
Deuxièmement, elles sont économiques. En effet, si je prends l'exemple des lentilles vertes françaises et bio, leur prix varie entre 6 et 7 euros le kilo, sachant que leur volume après cuisson est multiplié par 2, voire 2 et demi.
C'est une opération rentable.
Mais oui, je suis allé faire un tour dans un Carrefour, au cœur de Paris, hein, pour 500 grammes de lentilles vertes, un petit Carrefour en version petit format, la boîte à chaussures, vous voyez, pour 500 grammes de lentilles vertes françaises bio, de surcroît, françaises et bio, 2,39 €. Et on peut faire un très bon repas avec ces lentilles.
Et surtout, le poids est multiplié par 2, 2,5. Donc, au final, ça reste très intéressant. Et enfin, elles sont bonnes pour la santé, car elles contiennent des protéines, du fer et des minéraux.
Ça, on va le voir, vous êtes en
mais
train
ça,
de...
Mais ça, voilà. Anthony Bertrand parlera mieux que moi.
Mais évidemment, juste un petit point pour tous ceux qui, derrière leur poste de radio, se demandent exactement ce que revêt la réalité des légumineuses. Vous y consacrez un inventaire à peu près exhaustif de la page 26 à la page 31, chère Zora, on peut considérer que c'est la grande famille des fabacées, que ce sont des graines qui poussent dans des gousses, et à partir de là, nous avons une dizaine de variétés de haricots secs, borlotti, corni, le fameux Black Eyed Peas,
hein, azuki,
le haricot blanc, le mungo, absolument. Il y a les lentilles et les lentillons. Alors là aussi, c'est une grande famille parce qu'il y a les vertes. On parlait de la verte du Puy qui bénéficie d'ailleurs d'une appellation d'origine protégée, mais il y a également la beluga.
C'est la berry, la verte du berry.
Absolument. Il y a la lentille corail.
La lentille corail, la lentille rose,
oui.
Du berry, on en a parlé.
Il y en a plein.
Voilà.
Le pois chiche, bien sûr.
Le pois chiche, et notamment, là, ce que vous avez goûté, c'est donc des pois chiches Daisy, d'origine française, et cultivées dans le sud-ouest.
Magnifique.
Elles sont plus petites, et parfois, elles nécessitent même pas un trempage la veille. Et elles cuisent en 30 minutes.
Super. Et on oublie aussi le pois cassé. Le pois cassé, on peut considérer que c'est une variété de petit pois qui est séché. Moi, j'adore le pois cassé, notamment cette soupe de pois cassé.
Tout à fait. Les pois cassés...
Alors, on n'aura pas le temps d'aborder dans cette émission la cacahuète. On ne le sait pas, mais c'est une fabacée. C'est une légumineuse, même si culinairement, on l'utilise plutôt comme un oléagineux, rapport à sa teneur en lipides. Et puis, les fèves de soja.
Les fèves de soja, donc, avec lesquelles on va pouvoir fabriquer le tofu notamment,
et, voilà.
Et différentes sortes de tofu.
Je me tourne vers François Simon, qui est un amoureux et un grand connaisseur du Japon. Quand, François, vous dégustez du tofu au Japon, vous mangez des légumineuses.
Ça, c'est une bonne nouvelle, en plus. au moins, quand je déguste, c'est tellement nuageux, c'est tellement divin qu'on est... On a quitté la terre, donc c'est bien de le savoir de temps en temps.
Texture d'une souplesse extraordinaire, le tofu. Alors, on ne l'abordera pas, on a consacré une émission au tofu. Il y a par ailleurs dans votre livre, Zora Levacher, de très belles recettes autour de ce, alors on ne va pas dire fromage de soja, mais c'est en tout cas du jus de soja qui est coagulé et qui a différentes textures, du très soyeux à l'un peu plus ferme.
Exactement.
Et effectivement, comme le dit très bien François Simon, c'est la carte du tendre, hein, le tofu, c'est absolument fabuleux. Anthony Bertou, évidemment, le nutritionniste va dire que les légumes secs sont son grand copain, leur grand copain.
En partie, on va dire, on va déjà parler effectivement de tout ce qui est avantageux. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est une richesse en protéines qui est très intéressante. Si on prend à peu près 150 grammes en pois cuit et non pas en pois cuit, en cru, pardon, on va être à peu près sur 12-14 grammes de protéines, donc ce qui est déjà très bien. À titre de comparaison, c'est plus que la moitié de 100 grammes de viande, de volaille, par exemple.
Donc c'est pas négligeable, c'est une source de protéines végétales.
Loin de là.
Tout à fait intéressante, notamment quand on veut un peu freiner sur les chairs animales.
Exactement. Alors il y a des inconvénients dans le sens où le profil en acides aminés, hein, qui sont les petites briques, on va dire, des protéines, n'est pas idéal. Mais il suffit de les associer avec des produits céréaliers, effectivement, avec des oléagineux dont on parlait là à l'instant également, ou avec des produits animaux pour les personnes qui en consomment. Ce sont aussi des aliments qui ont ce qu'on appelle une charge glycémique modérée.
Donc... Alors, parlez-nous en bon français. Donc, charge glycémique modérée, on voit à peu près ce que ça veut dire.
Alors, Ils contiennent de l'amidon.
Ouais. Donc
ça, c'est effectivement ce qui fait que ce sont des produits qu'on va conseiller justement pour avoir une glycémie qui est stable au cours du temps, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie. Mm-hmm. Mais contrairement, par exemple, à des produits céréaliers ou autres, cette élévation de glycémie à la suite de la consommation est faible. Et ça, c'est vraiment un avantage, parce qu'on a tendance aujourd'hui dans notre alimentation à avoir des pics d'insuline très réguliers qui font suite, en fait, à une glycémie trop haute. Donc c'est là aussi... quelque chose de très bénéfique sur le plan nutritionnel.
Charge glycémique modérée.
Exactement.
C'est aussi une source incroyable de très bons nutriments, d'oligo-éléments.
Et de minéraux. Alors il y a des vitamines du groupe B. Il y a beaucoup de minéraux, notamment du zinc, du potassium, on va retrouver du magnésium également, du fer, le fameux fer des lentilles hein, qu'on connaît bien.
Alors est-ce que la lentille a une teneur en fer plus élevée que ses copines? Ou ça concerne le fer, ça concerne tous les légumes secs?
Alors, les lentilles en ont beaucoup plus en soi, mais il y a un mais, à savoir que malheureusement, c'est une forme de fer qui est beaucoup moins bien assimilée que le fer qu'on va retrouver dans la plupart des produits animaux. Donc, il ne faut pas simplement se fier à la quantité absolue, mais vraiment à la quantité qui va être assimilable. Et c'est là où je vais donner un petit bémol pour les légumineuses, c'est qu'ils contiennent ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels. Donc c'est un terme un peu générique dans lequel on va retrouver des phytates, des oxalates, des lectines, qui sont des composés, qui sont des systèmes de défense en fait des végétaux, qui peuvent irriter un petit peu la muqueuse de l'intestin, on en reparlera, et qui peuvent bloquer l'assimilation de ces minéraux. Donc en fait, sur le papier, c'est une très bonne source. En termes d'assimilation, on va modérer. Et puis surtout, pour des personnes qui sont sensibles au niveau digestif, on en reparlera, on apportera quelques précautions.
On va voir en effet que les légumes secs présentent quelques désagréments, mais ça, c'est la seconde partie de l'émission. Est-ce que l'on peut aussi préciser, Anthony Berthoud, que les légumineuses sont sans gluten?
Effectivement. C'est pour les personnes qui veulent manger sans gluten, c'est une très bonne alternative au niveau justement des sources d'amidon, parce qu'on a tendance à être très facilement dans une alimentation monotone, hein, quand on est sur une alimentation sans gluten. Et là, on a toute une variété de légumineuses qui sont, pour le coup, très intéressantes.
On va voir tout au long de cette émission que les légumineuses, les légumes secs sont un terrain de jeu culinaire absolument formidable. Et on vous le prouve dans une boisson surprise que je vous demande, François Simon, de déguster à l'aveugle. C'est votre métier depuis un paquet d'années, la dégustation. Mais alors, c'est quelque chose d'étrange. Je ne donne pas d'indices. Une boisson, on va dire, un peu épaisse. Est-ce que vous pourriez en décrire la couleur, François Simon?
Alors, c'est un vieux rose, un peu, style bouquet de fleurs abandonné. Mais en même temps, j'aime bien. Il y a une sorte de douceur, il y a un appel du pied, mais j'aimerais bien savoir où le pied se pose. Aidez-moi, François Régis, au lieu de rigoler mais comme un bossu.
Merci. C'est peut-être Justine qui va vous aider.
Mais effectivement, c'est très onctueux, très très doux. Il y a quelque chose de sucré aussi. Je trouve que c'est. Alors je sais pas si ça vient de l'aromatique ou de la texture en soi. Mm-hmm. Mais voilà, c'est
et
très
rond. C'est lacté, rond. Alors qu'il n'y a pas de lait, puisque Zora cuisine végétalien.
C'est ça.
C'est-à-dire sans aucune protéine animale. Alors, couleur vieux rose, moi j'aime bien le bouquet abandonné. J'espère que c'était un compliment pour Zora Levaché.
C'est toujours un compliment.
Mais sauf que là, vous bottez gentiment en touche, les amis, parce qu'évidemment, on est dans une émission légumineuse. Il y a une légumineuse star qui, d'ailleurs, la couleur qu'a décrit... François Simon peut donner une indication de la nature de ce légume sec?
Haricots rouges.
Mais d'accord,
bien sûr.
Ok, on donne le résultat des jeux.
On n'est pas fêté quand même. Hein.
Personne n'a le droit de réfléchir et de se jeter à
l'eau. Elle a bien vu qu'on était en difficulté.
Oui, c'est ça.
Vous êtes bien sympa. Est-ce que vous distinguez une petite trame fruits rouges aussi?
Oui. Une fois que vous nous le dites, oui, on la distingue bien. Non, c'est délicieux. Un fruit rouge.
Du coup, si je peux me permettre...
un peu de framboise.
Grenade.
Framboise, bravo. Oui. Grenade, non.
Mais on est dans cette aromatique.
Il n'y a pas une eau florale en plus, non?
Non.
Alors Zora, résultat des jeux.
Du coup, on est sur une boisson à base de haricots rouges, fruits rouges, un petit peu de lait de coco, un peu de lait de soja et un petit peu de sirop d'érable.
Les fruits rouges, lesquels?
Alors, oui.
On est sur de la fraise et de la framboise fraîche.
Ah oui, bien.
Ouais, c'est pas doué quand même.
Et on pourrait mettre des haricots azuki à la place des haricots rouges.
Ça, ouais, on n'était pas loin.
Très bon aussi.
Alors évidemment, les haricots rouges, ils sont cuits.
Oui.
On va expliquer comment on les cuit dans un instant. où on peut les acheter déjà cuits en conserve ou en bocal.
Là, ce sont des haricots en conserve.
Notamment au rayon bio des magasins bio.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Et alors, comment on s'y prend pour faire j'imagine qu'il faut un blender ou un mixeur.
Il faut un mixeur. C'est très très simple à réaliser. Il faut juste mixer la totalité des ingrédients ensemble. Et ça se boit idéalement frais, là je suis désolée, mais...
Pour une personne, 60 grammes de... On va voir si Anthony Berthoud valide. Pour une personne, pour un grand verre un peu smoothie, on va dire, 60 grammes de haricots rouges déjà cuits, bien sûr, 60 grammes de fraises, 70 grammes de framboises à remplacer par d'autres fruits éventuellement et des fruits de saison, 35 grammes de sirop d'érable, boisson végétale de coco non sucrée 100 grammes, boisson végétale non sucrée
avoine, soja,
amande 200 grammes, éventuellement des glaçons, ça vous va ou pas Anthony ?
Très bien, bon, si je suis un peu puriste sur le sirop d'érable, je diminuerai un petit peu, mais ça c'est mon travers. Mais d'accord. Non, c'est très très bon par contre.
Merci. Après un long footing par exemple, ou une séance de sport.
Eh ben ça sera parfait, effectivement, et puis si on compare à d'autres produits sucrés, pour le coup c'est très très bien, donc c'est pour ça que je suis puriste en disant ça.
On pourrait sucrer avec une date aussi.
Ah, ouais. Bonne idée, effectivement.
Qui est aussi un index glycémique un peu plus bas et des minéraux.
Il va apporter des fibres, et donc qui va ralentir la vitesse d'assimilation du sucre, donc très bien, oui.
Anthony, vous validez les glaçons ? Est-ce que c'est bon pour l'estomac ? Le froid ?
Alors, disons que du côté de l'estomac, ça va bien se passer. C'est plutôt du côté de l'intestin que ça peut poser problème. Effectivement, on parlait du sport. Si vous prenez trop froid après le sport, vous pouvez aller vite aux toilettes.
Et François Simon est un grand marathonien, comme on sait.
Oui, adepte des toilettes aussi.
Les deux n'étant pas incompatibles pour nous.
Merci Anthony.
On fait une autre pause liquide avec notre chroniqueuse vin, Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Dégustation à l'aveugle, de but en blanc,
voilà,
avec un vin rouge.
Voilà, il y a un verre devant vous. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez.
Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de légumineuse.
Non, il n'y a pas de piège. Non, non.
Et bah, attendez, il y a encore cette thématique fruits rouges.
Oui.
Avec un côté cerise écrasée, fruits acidulés, un peu griotte.
Oui, tout à fait. Il y a aussi ces épices chaudes. C'est un vin soyeux, avec du relief, un joli fruit qui semble à peine touché. C'est la cuvée Résistance 2024 de Nadia Beaune, dans les Monts du Forêt. Donc on est en terre volcanique. Et je vous l'apporte comme un contre-exemple, parce que les vins de ce type ont bien mauvaise réputation. Si on dit que les légumineuses sont fades, à l'inverse, on dit que ces vins sont trop excentriques ou qu'ils manquent de fond, ce qui est tout sauf le cas ici. Le cépage de ce vin, cépage planté, cépage hybride.
Ah, ça y est, le mot est lâché, cépage hybride. On avait abordé le sujet dans une émission avec le vigneron jurassien Valentin Morel, c'était en 2023. On vous a mis le lien d'ailleurs de l'émission sur les cépages hybrides sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Et je me suis donc repenchée sur la question du goût de ces cépages pour Libération, pour un hors-série vin sorti cette semaine. Un peu de contexte, Le Monde boit presque exclusivement du vin de l'espèce Vitis vinifera. Mmh. Et fin 19e, des maladies des ravageurs arrivent d'Amérique, phylloxera, mildiou, oïdium. On cherche des moyens de lutte et l'un d'eux consiste à créer d'autres espèces plus résistantes par croisement de fleurs, hein, donc un geste de botaniste.
Comme on le fait pour les agrumes hein, d'ailleurs.
Oui, voilà. Dans les années 50, les hybrides occupent un tiers du vignoble avant d'être dénigrés. Les domaines qui replantent aujourd'hui le font pour le plaisir d'une vigne facile, en pleine forme. Pas besoin de traitement, même pas de cuivre ni de soufre comme en bio. Après le gel, la vigne repart. Donc quelques pieds d'hybride sur son domaine, bah c'est déjà une sécurité économique, une certaine tranquillité qui permet par exemple de cultiver d'autres cépages, des cépages, les cépages les plus fragiles. Mais donc il y a le goût. Si je vous dis hybride, il y a de fortes chances que vous pensiez arôme exacerbé de fraises, voire de bonbons. Et c'est vrai pour certains, mais il existe des milliers d'hybrides. Des noms circulent, ceux des années 20, le Savillard, le Rayon d'Or, le Léon Millot, le Planté. Mmh. Il y a cette anecdote dans le Jura, chez les vignerons Jules et Didier Grappe.
Ça s'appelle vraiment Grappe. Hein.
Exactement.
C'est ce qu'ils appellent un aptonyme. Porter le patronyme de son métier.
C'est ça. Donc un casier de bouteille qui est égaré dans la cave sans étiquette. Est-ce que c'est du savagnin, donc l'un des cépages phares du Jura, ou est-ce que c'est du cèpe-villard, un des hybrides du domaine? 5 personnes goûtent, personne n'est d'accord.
Et comme quoi?
Et ce blanc de cèpe-villard en question, il n'a rien de déstabilisant, rien qui fasse lever le sourcil. La bouche s'agite, on susote, on se lèche l'intérieur des joues. Celui que j'ai goûté est un 2022, donc déjà quelques années de bouteille. On reproche aux hybrides leur manque de complexité, mais c'est vite dit. Peut-être faut-il leur laisser le temps, parce que les domaines qui sont séduits par cette idée de vin sans intrant de la vigne à la cave sont souvent de jeunes installés, jeunes vignes, vinification courte par souci de trésorerie, ce qui limite d'emblée la profondeur des vins. Mais il y a ces contre-exemples qui nous montrent autre chose. Donc, par exemple, le vin de Nadia Beaune qui est dans vos verres, qui provient de vignes centenaires, ou ce planté 2021 de Château Gaillard dans la Vienne. Une longue vinification en amphore pour l'élégance, 4 ans de bouteille pour une texture magnifique. Et que donnerait un hybride vinifié par un grand domaine réputé qui essayerait, malgré la connotation de ses idées, qui se pencherait sur ces vins douteux. Douteux, pas de piètre qualité, mais qui font l'objet d'un doute.
C'est vrai qu'il y a encore la barrière psychologique des hybrides, malgré leur facilité de culture, entre guillemets, leur résistance aux maladies, mais il y a pour l'instant encore dans beaucoup de domaines ce refus d'obstacle. Non, on ne plante pas des cépages hybrides. Okay. Et pourtant, c'est en train de changer, comme le montre notamment ce très joli jus que vous avez versé dans nos verres. Côté prix, Justine Knapp.
Donc cette cuvée résistance de Nadia Beaune, les vignes centenaires est à 20 euros. Les vins coûtent plus généralement entre 7 et 16 euros. C'est l'avantage de faibles coûts de production. Le vin artisanal peut réinvestir une sphère plus large. Par exemple, dans le Jura, à Lons-le-Saunier, le vigneron Valentin Morel et le restaurateur Thomas Chapelle ont repris cet été une brasserie. La brasserie Le Strasbourg, qui est une institution de 150 couverts. Menu à 19,90 avec produits fermiers. Et verres d'hybride à 5 euros.
Les verres d'hybride à 5 euros dans ce nouvel établissement. Thomas Chapelle et Valentin Morel, en effet, j'ai vu passer l'info sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un restaurant que je ne vais pas tarder à aller visiter. Peut-être que François Simon aussi.
J'ai vu de passer après vous, là, c'est clair.
Dit-il.
Les restaurants sont blindés, on peut plus rentrer, les prix augmentent. Non, non, merci.
Y retournerai-je? Je pense que vous répondrez oui.
Non. Voyez-vous. Prenez la place de parking pendant que vous y êtes.
Dans un instant, évidemment, la face sombre des légumineuses, enfin la face sombre. Il y a des solutions, des précautions à prendre, les problèmes notamment de digestion avec les légumes secs, on en parle dans un instant. D'autres magnifiques recettes et stratégies culinaires de Zora Levaché. Et puis juste après la petite pause musicale, un François Simon qui a beaucoup de mal à ravaler son amertume. Ce sera la chronique Ding sur France Inter.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be you? And I have started. How will we know?
Something You Said de Alani, le critique, voyageur, écrivain François Simon est avec nous en ce dimanche, mais son humeur est amère.
On va déguster sur France Inter.
François Régis, est-ce que je peux vous poser une question ?
Mais je vous en prie, François.
On peut dire que vous mangez de tout, non ?
Ah ouais, je suis omnivore, total.
Mais est-ce que vous vous êtes déjà mangé un râteau ?
Râteau sur le plan alimentaire ?
Ouais. Moi, régulièrement, j'arrive à tout de suite faire la distinction. Hein, fibre de verre, manche en frêne, acier, aluminium. Mais vous ?
Disons que c'est pas trop le genre de spécialité que j'affectionne, en fait. Mais bon...
Bon, ça va. En fait, si je vous demande cela, c'est que l'on ressent alors des saveurs particulières. Déjà, on a le nez qui plisse, mais en bouche, c'est un vrai bazar. Il n'y a certainement pas d'umami, ni de rétro-olfaction, chère Justine. Mm-hmm. Non, il y a une saveur très précise. C'est l'amertume. En fait, l'amertume, c'est une sorte de vexation buccale, vécue en France comme une anomalie. Pour un gin fizz, ça passe allègrement, voire deux... Même 6, Anthony, vous validez. Mais les choux de Bruxelles, les endives, le pamplemousse, le chocolat noir lorsqu'il est poussé, non, ça ne passe souvent pas. Regardez, tout enfant en bas âge, sans avoir le bagage lexical, réagit illico à l'amertume. Que voit-on sur son visage ? Abaissement considérable des angles de la bouche. Élévation de la partie centrale de la lèvre inférieure. Et avant même que la sirène retentisse, le message est clair. C'est pas bon. Mais c'est tout de même curieux, car nous avons de l'amertume en France, un préjugé certes fondé, mais rarement dépassé. Pourtant, en Italie, l'amertume, comme le rappelle Emmanuel Giraud dans un délicieux livret, La mer aux éditions Argol, l'amertume en Italie peut être joyeuse, sociale, évidente. Et que je sache, François Régis, vous en connaissez un rayon, pas vrai ?
Je reviens de la région des Grands Lacs, j'ai dégusté notamment les amari, hein, Justine. Mmh. C'est digestif à base de plantes amères. Il y a des salades amères aussi, évidemment, et j'adore ça.
C'est tout ? Il n'y a pas plus dans le vocabulaire, je pense que c'est incroyable.
Non, hein, mais j'adore les salades amères, les puntarella, les cicoria.
Va
les...
bene, merci. Bon, chez nous, c'est une autre paire de manches. Pourtant, regardez bien la mer. C'est une des clés de la haute gastronomie. On va prendre le lièvre à la royale, par exemple. Il a fait des nuits, mais immenses, il a des horaires de dingo, il a mariné des plombes, il s'est laissé masser au clou de girofle, poivre exotique, genièvre, muscade. Il a imbibé des vins lourds et compréhensifs. Il brille dans sa nuit de velours profond. Dans sa flaque marron glacé, car rien de plus laid et de plus attirant qu'un lièvre royal, justement, l'amertume est là. Elle est tapie dans l'ombre, dans l'obscurité. De cette nuit noire à la huismance, à propos, vous vous souvenez de son fameux repas avec les basses d'encre ?
C'est dans À Rebours.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais, bravo, Elvira. Justement, il y avait dans ce même texte, il évoquait les allées poudrées de charbon, les corbeilles de violette, les pins de seigle russe, les olives de Turquie, les boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces, couleurs de jus de réglisse et de cirage. Des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes. Et bu dans des verres sombres, les vins de Limagne et du Roussillon, des Ténédos, des Vals des Pénas et des Porto. Savourer après le café de Broudenois, des coisses. Comment on dit d'ailleurs des coisses, des
Cavasses.
Hein, cette boisson.
K-W-A-S.
Ouais. Des porteurs. Et des stouts. Validé, Justine ?
Validé.
Là, c'est un beau spectre de la mer liquide. Hein,
ouais. Revenons à l'amertume, cher François Régis. Elle ne vient pas amuser la galerie, jouer les kékés en agitant les marcasses. Non, elle soulève le plat. Elle agit par en dessous et apporte le diadème sur son coussin de feutrine. Bon, on va prendre les pois chiches aujourd'hui. Vous me direz, l'amertume, là, je ne vois pas tellement, ça c'est clair. Pourtant, avec le hummus... Si le persil rôde dans le coin, c'est qu'il y a une raison. Il apporte son contraste, met en valeur la douceur de cette composition. Lorsque nous nous étions quittés la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais dit que l'on pouvait utiliser la vie des plats, des saveurs, comme une source d'enseignement pour soi-même. Pour ma part, de l'amertume, qui peut parfois me gagner, qui peut vous gagner, il faudrait alors s'inspirer de notre lièvre à la royale, d'utiliser cette amertume comme un carburant providentiel. l'utiliser comme les judokas le font avec la force de la chute, de la balancer par-dessus soi. En fait, l'amertume dégage ainsi le gras de notre pensée. Tout simplement, j'ai l'impression que de chaque plat dégage une leçon de vie. Mais nous ne faisons pas assez attention. Bon, allez, histoire de poursuivre le contre-pied et la transversalité, la prochaine fois, nous irons faire un tour dans un restaurant routier, histoire de puiser notre miel, nous masser le neurone et l'épiderme. Que je vois, cher François-Régis, je sens votre index impatient depuis quelques minutes. Faites-vous plaisir, actionnez.
Merci François Simon. Vous interviendrez en effet la semaine prochaine dans une émission consacrée aux cantines à petit prix et vous mettrez les pieds dans un restaurant routier. On va voir ça. Des questions d'auditeurs sur les légumineuses, Elvira Masson.
Alors une remarque de Deodato qui nous écrit que pour sa part, il pèle toujours les pois chiches. C'est un peu fastidieux certes, mais en termes de texture et de digestibilité, c'est incomparable. Vous recommandez aussi, Zora et Anthony ?
Anthony ?
Alors au niveau nutritionnel, effectivement, en termes de plus de nutrition, pas de nutrition, mais de digestibilité, oui, effectivement. Par contre, c'est fastidieux, en effet. Ouais.
Ah ouais. Alors, les épluchés, ça les rend plus digestes, car en effet, les légumineuses se sont dotées de petits désagréments, n'est-ce pas ?
Bonjour les copains. Mercredi 10 février, ce sera la journée mondiale des légumineuses. Oh non. Je vais pas y arriver. Non, ça va être très long. Mais enfin, Constance, ces aliments magiques doivent bien avoir un petit défaut, un inconvénient. Non, vraiment, Constance, j'ai beau chercher, je n'en trouve pas.
On a compris, merci beaucoup Constance. C'était un extrait de Par Jupiter en février 2021, car il existe bien une journée internationale des légumineuses qui tombe chaque année le 10 février. On reproche aux lentilles, aux pois chiches, aux haricots secs de nous transformer en usine à gaz. Est-ce que c'est un procès honnête qu'on leur fait, Anthony Berthoud ?
Alors c'est un procès honnête dans le sens où effectivement on a un certain nombre de personnes qui vont être sensibles au niveau digestif et qui vont souffrir un petit peu de ces ballonnements, de ces flatulences et autres. Mais il faut savoir qu'en soi, c'est plutôt quelque chose de bénéfique à partir du moment où on le tolère bien. C'est-à-dire que ce sont les bactéries de notre fameux microbiote intestinal qui vont utiliser ce qu'on appelle les fibres fermentescibles. Et ces fibres fermentescibles, on les retrouve dans les légumineuses comme dans d'autres aliments. On a souvent en tête l'acronyme FODMAP pour justement désigner l'ensemble des fibres fermentescibles qui vont être utilisées par l'intestin. On peut parler aussi de l'amidon résistant. On a en fait toute une série comme ça de composés qui peuvent nourrir ce microbiote. Et ça en soi, c'est quelque chose de bénéfique. Mais le microbiote va produire effectivement ces fameux gaz et qui peuvent être responsables d'un confort. Donc il faut trouver en fait le juste milieu entre... placer le curseur au bon endroit pour qu'on produise quand même ces composés qui nous sont bénéfiques ou qui sont bénéfiques à notre microbiote et indirectement à notre santé, sans pour autant dégager des agréments trop importants. Quoi.
Laurent Thomas, ma réalisatrice, me pose cette question au casque, je la pose de but en blanc. Bah, il faut assumer ta question, Laurent. Est-ce que c'est des pets qui puent ?
Alors non, en général, ce ne sont pas les pets qui puent. Alors si on rentre dans le pratico-pratique, il faut savoir que les pets qui puent, c'est plutôt de la putréfaction.
Okay.
C'est-à-dire quand vous allez manger des protéines, donc de la viande, du poisson, des œufs, et que vous n'allez pas forcément les mastiquer suffisamment, vous allez en consommer en trop grande quantité par rapport à votre capacité de production, ce qu'on appelle les protéases, là on va avoir des gaz qui vont être odorants. Alors c'est des termes très romantique, hein, comme putrescine, cadavérine, ça en dit assez long par rapport à ça. Non, quand on va produire ces composés issus des légumineuses, ça va plutôt être ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, le propionate, et ce sont des composés qui sont, encore une fois, très bénéfiques pour notre santé. Donc ce sont les pets qui font du bruit, mais qui puent pas.
Vous avez quelque chose ?
Oui, Anthony.
Est consterné, François.
Est-ce qu'il est louable de péter et de roter ? Est-ce que c'est recommandé par la médecine ?
Alors, pour les pets, effectivement, on a vu que c'était quelque chose qui était intéressant. Tant que ça gêne pas trop le conjoint, c'est surtout ça, ou le voisin en soi. Et puis, on a vu qu'entre les protéines et les fibres fermentescibles, on n'aura pas les mêmes odeurs. Donc, en soi, c'est pas un élément qui est délétère. Pour ce qui est des rots, c'est encore une autre histoire, mais je pense que là, j'ai fait déjà peut-être assez long.
Ben, les rots, on consacre.
On en fera une émission.
J'espère que vous leur consacrerez votre rubrique, votre
chronique. Ça peut être une idée de chronique,
ouais. Elvira Masson ?
Est-ce que le fait d'associer une légumineuse à un grain, par exemple au riz, réduit le problème ?
Alors ça va réduire dans le sens où on va consommer moins de légumineuses. Ça va être intéressant nutritionnellement, on l'a vu, par rapport aux protéines, mais sur la notion de fermentation.
Pas d'association vertueuse en la matière.
Pas directement. Okay. Mais c'est surtout l'effet quantitatif en fait, qui va être moindre, et ça c'est intéressant.
Alors justement, venons-en peut-être aux solutions ou aux précautions à prendre pour réduire réduire légèrement ces désagréments, même si vous nous dites que c'est pas un problème de santé, que c'est finalement un réflexe assez sain que de lâcher un vent ou une flatulence. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pour autant, on peut réduire cet effet.
Tout à fait. Et alors, justement, pour aller un peu plus loin, on a des personnes qui vont souffrir de ce qu'on appelle le fameux syndrome du côlon irritable ou également de SIBO. Donc là, c'est encore un autre trouble qui nécessite, pour le coup, d'éviter ces aliments-là pendant un certain temps pour justement retrouver une réadaptation progressive. Donc la solution pour monsieur, madame, tout le monde à ce niveau-là, c'est effectivement de les consommer aussi progressivement. Si on a pris, si on a perdu l'habitude d'en consommer pendant des années, il est fort probable qu'effectivement, on ait ces ballonnements, ces gaz assez rapidement. Donc en fait, on les consomme progressivement en termes de quantité. Et puis en termes de préparation, également, on a parlé du trempage. Le trempage est très intéressant.
Alors, on en vient à ce trempage. Expliquez-le sur le plan nutritionnel.
Alors il y a deux avantages, c'est que déjà la tolérance va être meilleure par rapport à ces fibres. Et ça permet aussi de diminuer les fameux facteurs antinutritionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on parle d'ailleurs de plus en plus des oxalates. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez à l'esprit, mais au niveau de la nutrition, c'est un terme qui monte, entre guillemets, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de composés qui sont présents dans les végétaux, dont les légumineuses, et qui peuvent provoquer ces irritations au niveau de la muqueuse et le trempage, comme la cuisson suffisante pour les légumineuses. Après, on peut parler de fermentation, de germination en dehors des légumineuses à proprement dit, mais pour ce qui est de cette catégorie, un trempage suffisant, une cuisson suffisante, quitte à jeter l'eau de cuisson à mi-cuisson, pour remettre de l'eau, et d'accord, ça va diluer justement un peu ces facteurs antinutritionnels.
Zora Levaché, spécialiste de la cuisine des légumineuses, ce fameux trempage. Il est vrai que quand on achète en grande surface, dans les magasins bio, des légumineuses, soit c'est déjà cuit en conserve, bocaux, boîtes de conserve, ou sec. Mais sec au sens de dur et non cuit. Et là, on s'occupe nous-mêmes à la maison de la cuisson, et ça passe par la case trempage.
Alors, le trempage est indispensable pour les pois chiches, les haricots et les fèves avec la peau. Il permet de réhydrater les graines, il diminue le temps de cuisson, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il libère les substances qui causent les ballonnements, des antinutriments et des impuretés.
Concrètement, le trempage, c'est combien de temps, selon quel légume sec ?
12 heures minimum.
Pour tous les légumes secs, à l'exception de ceux que vous n'avez pas cités.
À l'exception des lentilles.
La lentille, on peut s'en passer, par exemple, même si c'est toujours mieux de la faire tremper. Voilà.
Pour les personnes qui sont sensibles au niveau digestif, moi, j'aurais tendance à le conseiller. Mais vraiment sur le plan purement nutritionnel.
Et la cuisson est plus rapide, finalement, si on les laisse tremper.
Tout à fait.
On dit aussi que le trempage peut libérer, justement, une force nutritionnelle de ces légumes secs, on te libère tout.
Alors oui, après, tout dépend, effectivement, si on va consommer le liquide en tant que tel. Ah. Mais en fait, on a toujours un effet de dilution, notamment des minéraux. Et c'est vrai que l'apport de sel dans la cuisson va être un critère important, puisque ça va modifier ce qu'on appelle l'osmolarité, et ça va jouer sur la migration potentielle des minéraux dans le liquide de cuisson.
Donc, trempage au minimum 12 heures, Zora Levaché, donc une nuit par exemple, on fait tremper ces pois chiches un soir, peut les cuisiner le lendemain pour le déjeuner.
On les fait cuire, alors surtout on jette l'eau de trempage du coup, on les fait cuire dans 3 fois leur volume d'eau, et moi j'ai une petite astuce.
Et le temps de cuisson c'est combien de temps, excusez-moi ?
Le temps de cuisson, ça dépend des légumineuses, ça peut être une heure et demie, trois quarts d'heure, tout dépend. Et moi, la petite astuce que j'ai découverte, notamment dans la cuisine japonaise, c'est le rajout un morceau d'algue kombu que je vais rajouter dans l'eau de cuisson qui va cuire pendant tout le temps de cuisson nécessaire. Et en fait, l'algue kombu contient des enzymes qui sont capables, en partie en tout cas, de décomposer les sucres complexes qui sont responsables des ballonnements. Donc j'ai fait le test sur moi et mon entourage, ça a bien fonctionné.
L'algue kombu, c'est cette algue japonaise qui est d'ailleurs une composante du fameux bouillon d'ashi, alors qu'on trouve aussi évidemment en Bretagne, mais qu'on peut acheter en magasin bio, d'origine bretonne, d'origine japonaise.
Et l'algue, le kombu breton est très très bon, pour l'avoir testé tous les jours. Et le dashi, ce fameux dashi qui, du coup, sert à faire les marinades, les sauces et notamment la soupe miso.
On parle aussi souvent de bicarbonate.
Oui. Alors, moi, j'ai essayé le bicarbonate, ça n'a pas... Il n'y a pas eu de changement.
Parce que du côté du Levant, chez les Libanais, pour faire un houmous notamment dans la cuisson du pois chiche, on met une cuillère à soupe de bicarbonate de soude qui atténuerait justement, enfin qui rendrait le pois chiche cuit plus digeste.
Tout à fait. Après, il y a vraiment une différence en fonction des personnes. Mais c'est un conseil qu'on est souvent amené à donner.
Des sensibilités aussi au niveau de l'intestin, j'imagine.
Tout à fait. Et juste une petite précision par rapport à ça, au niveau du choix des légumineuses, si justement on est plutôt sensible au niveau intestinal, les haricots azuki, par exemple, les lentilles corail vont être très intéressantes parce que justement, beaucoup plus digestes à ce niveau-là.
On nous fait remarquer également sur nos réseaux sociaux, et ça c'est une remarque très intéressante sur le plan culturel, s'il y a dans beaucoup de préparations à base de pois chiches et autres légumineuses, notamment autour du bassin méditerranéen, du cumin, des graines de fenouil, des graines de carvi, du curcuma, du gingembre, c'est précisément parce qu'on avait cette intuition qu'accompagner ces légumes secs de ces épices digestives atténuait justement les petits désagréments.
Et l'ajout aussi
des légumes secs.
L'ajout également d'herbes fraîches, cerfeuil, persil, sauge, etc.
Elvira.
Votre truc avec l'algue kombu est partagé par pas mal de nos auditeurs. Je suis étonnée parce que je ne connaissais absolument pas ce système. Frédéric, elle, nous écrit que elle a également une petite astuce pour une digestion plus facile. Elle ajoute des graines de chia comme du sel au moment de servir, comme un petit assaisonnement.
Ouais.
Graines de chia plus légumes secs.
Ça fait beaucoup.
L'algue kombu, l'intérêt aussi, c'est ça ralentit les saveurs, comme chez nous, le gras. Et c'est ça qui est hyper intéressant, vous voyez. Ça fait une pellicule sur laquelle on peut encore mieux sentir les différentes nuances.
Très intéressant. Deux dernières petites stratégies culinaires avec cette crème qui est tartinée sur nos petits morceaux de pain et qui pourrait être définie comme un aioli.
C'est un aioli à base de haricots lingots que j'ai acheté en conserve. Mm-hmm. Donc c'est assez fort, hein. Mais on retrouve la texture crémeuse d'un aioli. Et,
Sans gras.
Sans gras, sans gluten.
Qu'est-ce qu'il dit le nutritionniste ?
Très bien, mais après le gras dans dans l'aioli, c'est aussi intéressant. C'est souvent des graisses de qualité.
Oui.
Mais là, c'est très bon, très, très marqué, effectivement, très puissant.
Comment on s'y prend, Zora, pour faire ce faux aioli, entre guillemets ?
Avec tout simplement de l'ail dégermé, des haricots lingots.
Qui ont été cuits, bien sûr.
Été cuits, que j'ai achetés en conserve. On n'est pas obligé de les faire tremper, les cuire. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Et un petit peu d'huile d'olive.
On mixe.
On mixe.
Et on obtient cette crème fabuleuse,
très
parfaite
soyeuse,
pour l'apéro.
Ouais.
Ça nous renvoie à nos vacances d'été.
Ouais,
et puis
ça permet de faire manger aussi des légumineuses aux enfants ou à tout le monde, en fait.
Et c'est vrai que c'est un goût absolument extraordinaire. On n'entend pas ce que les. Dernière recette pour montrer que les légumineuses sont tout à fait adaptées aux plats sucrés, au dessert, à un plat tout à fait étonnant.
Là, on est sur des beignets de lentillons de champagne.
Des beignets de lentillons de champagne, on parle bien de dessert.
Voilà, donc on est sur du sucré avec un tout petit peu des petites notes d'épices, de cardamome et de graines de fenouil.
Mm-hmm.
Et saupoudrées de sucre.
Ah, c'est excellent.
Voilà. Non.
C'est très bon.
Vous partagez avec moi, François-Régis, j'étais privée de dessert, je ne sais pas pourquoi.
Ah non, ça,
j'ai pas été
pas,
sage.
Je suis désolé, j'adore. C'est bon, Justine.
Il y a effectivement toutes ces épices, mais ça donne les légumineuses une bonne base assez corsée, presque comme du seigle ou un reste de pain, etc. Enfin, ça donne de la puissance.
C'est ça. Alors, je les ai fait tremper la veille quand même pour les rendre plus douces et plus faciles à cuire.
Et plein d'autres recettes signées Zora Levaché dans ce très joli livre. Chiche, j'adore le titre en plus. Oser les légumineuses chez Ulmer. Vous nous redonnez le nom du photographe qui vous a accompagné dans cette aventure éditoriale.
Magnifique photo de Franck Juéry.
Anthony Berthoud, merci pour vos lumières. Vous revenez régulièrement, hein. C'est le principe de notre collaboration.
On est
ravis d'avoir vos connaissances nutritionnelles pour éclairer notre émission. Merci François, à la semaine prochaine, hein. On se voit.
Il y a intérêt.
C'est une bonne nouvelle, un événement à vous signaler, chères auditrices et chers auditeurs. Nous poursuivons l'aventure de nos masterclass, ces émissions en public où nous recevons de grandes signatures de la gastronomie. Nous enregistrons notre première masterclass de la saison avec l'étonnant Régis Marcon, chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid. Nous sommes en Haute-Loire, figure influente sur toutes les questions alimentaires. L'enregistrement se déroulera le jeudi 25 septembre à 10h30 dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Si vous voulez assister à cette émission, envoyez-nous un mail, on va déguster à radiofrance.com. Les places sont limitées, on vous recontactera et la semaine prochaine, je l'ai dit, cantine à petit prix, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,